Vous écoutez On lit pour vous.
Une décennie d'action contre l'antisémitisme. Un texte de la rédaction paru le 7 février 2025 sur le site de l'UNESCO. Des décennies après l'Holocauste, l'antisémitisme est en hausse en Europe et au-delà. Les programmes d'éducation sont essentiels pour aider les gens à comprendre le passé violent et à développer des valeurs pour prévenir de futures atrocités. À l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination nazie allemand d'Auschwitz, Birkenau, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, s'est récemment rendue en Pologne pour participer aux commémorations officielles. Sur place, elle a visité un nouveau centre de recherche sur la haine, l'extrémisme et la radicalisation créé par le Counter Extremism Project, CEP, avec le soutien de l'UNESCO, dans l'ancienne maison du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss. Elle a réitéré l'engagement de l'UNESCO dans la lutte contre l'antisémitisme. À l'heure où les survivants et les témoins directs de l'Holocauste se font de plus en plus rares, il est essentiel d'investir davantage dans l'éducation pour transmettre la mémoire des faits et lutter contre les formes contemporaines d'antisémitisme. C'est le travail que conduit de façon résolue l'UNESCO depuis sa fondation, a dit Audrey Azoulay, à la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 17 janvier 2025. Promouvoir la tolérance dans 24 pays. Depuis plus de 10 ans, l'UNESCO aide les pays du monde entier à intégrer l'histoire de l'Holocauste dans leur programme scolaire. Ce programme international sur l'enseignement de l'Holocauste et des génocides, mis en œuvre avec le United States Holocaust Memorial Museum, est désormais étendu à 24 États membres de l'UNESCO dans toutes les régions, y compris le Cambodge, la Colombie et le Rwanda. Dans le cadre de son programme d'éducation à la citoyenneté mondiale et à la paix, l'UNESCO a également formé plus de 1000 éducateurs en 2024 à la prévention de l'antisémitisme par l'éducation. En collaboration avec la Commission européenne et l'OSCE, l'UNESCO a mis en place un programme spécifique de formation des enseignants qui est déjà en place dans 12 pays de l'Union européenne et sera étendu cette année à tous ses États membres. Se souvenir de l'Holocauste. Le déni de l'Holocauste correspond à toute tentative de nier les faits établis du génocide nazi de 6 millions de Juifs européens. Le partenariat de l'UNESCO avec le Congrès juif mondial, lutte contre le déni et la distorsion de l'Holocauste et fournit aux gens des réponses factuelles sur l'Holocauste, notamment sur le site aboutholocaust.org. Disponible en 19 langues, le site a reçu plus de 4,4 millions de visiteurs pour la seule année 2024. Grâce à son registre « Mémoire du monde », l'UNESCO soutient la préservation et la diffusion d'archives d'une valeur exceptionnelle concernant l'Holocauste, notamment le journal d'Anne Frank, le procès d'Auschwitz à Francfort, les archives du ghetto de Varsovie et le film « Shoah » de Claude Lanzmann. En outre, en ajoutant le camp d'Auschwitz à sa liste de sites du patrimoine mondial en 1979, l'UNESCO contribue à préserver la mémoire de ces événements, afin que la conscience universelle de l'horreur de l'Holocauste ne s'estompe jamais. En 2025, l'UNESCO a publié des guides pour aider les éducateurs et les journalistes à lutter contre le déni de l'Holocauste, les distorsions historiques et l'antisémitisme contemporain. Le guide pour les enseignants, en anglais, et les activités pédagogiques pour l'enseignement secondaire, en anglais, examinent en détail la manière dont le négationnisme et le discours antisémite apparaissent en ligne et dans les salles de classe. Le guide, à l'intention des journalistes, en anglais, présente les cadres juridiques existants relatifs à la désinformation sur l'Holocauste et fournit des recommandations aux professionnels des médias pour les aider à couvrir les cas de négationnisme et d'antisémitisme. L'UNESCO continue de lutter contre l'antisémitisme et encourage les États membres à l'intégrer dans leur politique éducative. Nous sommes engagés dans des campagnes de communication contre l'antisémitisme avec le message qu'il ne menace pas seulement le peuple juif, mais qu'il ébranle la paix pour nous tous. C'était une décennie d'action contre l'antisémitisme. Un texte de la rédaction paru le 7 février 2025 sur le site de l'UNESCO.
Vers des camions lourds plus sécuritaires en ville. Un texte de Marco Fortier paru le 11 mars 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les décès des usagers de la route sont en baisse, sauf chez les piétons. Ceux-ci sont impliqués dans les trois quarts des impacts mettant en cause un conducteur de camion lourd, d'après un comité d'experts québécois qui recommande de s'inspirer de la ville de Londres pour éviter ces collisions. Les camions lourds qui circulent à Londres doivent obligatoirement être dotés depuis 5 ans d'une série de caractéristiques qui visent à protéger les piétons et les cyclistes. Un groupe d'experts mandaté par Québec recommande de s'inspirer de la capitale britannique pour munir les camions d'équipements qui permettent aux conducteurs de voir les gens qui se déplacent à pied ou à vélo, y compris dans les angles morts de ces mastodontes. Camions à nez plat et aux larges fenêtres, rétroviseurs permettant de voir les angles morts devant et sur les côtés des véhicules lourds, caméras et capteurs de mouvement, alerte sonore pour avertir d'un virage à droite. Il existe d'innombrables solutions pour améliorer la vision des conducteurs ou avertir les usagers de la route les plus vulnérables d'un virage imminent du poids lourd qui se trouve tout près d'eux. Les camions représentent un danger en milieu urbain parce que les conducteurs voient mal tout autour de leur véhicule. Le manque de visibilité du conducteur était en cause dans les 2/3 des collisions graves ou mortelles impliquant un camion lourd, recensés au Québec entre les années 2012 et 2021, ont découvert les experts québécois. Les piétons sont les principales victimes de ces collisions graves. Des gens à pied sont impliqués dans les 3/4 des impacts mettant en cause un conducteur de camion lourd, toujours selon le comité d'experts créé par le ministère des Transports et de la Mobilité Durable, MTMD. Les camions lourds sont une des principales causes d'accidents graves ou mortels en ville, résume Jean-François Bruneau, spécialiste en mobilité au Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport. Il est un des 18 membres du comité mis en place par le Bureau de normalisation du Québec à la demande de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, en vue d'établir une norme de sécurité pour les camions lourds. Ces 18 citoyens engagés sont issus des milieux de la recherche, du camionnage, de la fabrication de machinerie lourde, ainsi que du secteur municipal, du MTMD, de Piétons Québec et de Vélo Québec. L'exemple de Londres. Ce comité recommande aux autorités québécoises de s'inspirer de la ville de Londres au Royaume-Uni pour améliorer la sûreté des livraisons en camion. Depuis l'année 2019, seuls les camions lourds ayant un certificat de conformité peuvent circuler dans la grande région londonienne. Les exigences de sécurité des camions ont même été augmentées en octobre 2024. Le nombre de collisions mortelles mettant en cause la vision déficiente d'un conducteur de camion lourd, à cause des angles morts, a chuté de 75 % dès la première année du règlement, selon le département des transports de Londres. Malgré ce résultat positif, 46 usagers de la route vulnérables ont subi des blessures dans des collisions impliquant un camion à Londres entre mars 2021 et mars 2022. Cette norme britannique classe les camions lourds sur une échelle de 1 à 5 en fonction des caractéristiques du véhicule facilitant, ou non, la visibilité des conducteurs. Le but est que les camions soient conçus pour que les conducteurs puissent voir directement les piétons et les cyclistes malgré les angles morts situés devant le véhicule, ainsi que sur ses côtés gauche et droit. Les collisions en ville impliquant des camions lourds surviennent la plupart du temps lors de virages à gauche ou à droite, aux intersections, souligne le chercheur Jean-François Bruneau. Souvent, les conducteurs de camions lourds ne savent même pas qu'il y a un piéton ou un cycliste près de leur camion. On veut s'assurer que les conducteurs prennent connaissance de la présence d'un usager vulnérable par une caméra ou par un détecteur de mouvement et qu'un signal sonore avertisse les personnes vulnérables que le camion s'apprête à tourner, explique-t-il. Des innovations technologiques sont en cours de développement. La Société de transport de Montréal, qui fait partie du comité d'experts, teste un système de caméras et d'écrans qui font office de rétroviseurs. Et des manufacturiers de camions travaillent à munir leurs véhicules d'écrans qui montrent la vue obstruée par les piliers A, qui créent un angle mort de chaque côté du pare-brise. Urgence d'agir. Les camions venus d'autres pays ont aussi l'obligation de se conformer à la norme de sécurité pour circuler à Londres. L'Union européenne a adopté la norme britannique qui sera en vigueur dans tout le continent à compter de l'année 2026. Les chercheurs ayant conçu ce système de sécurité estiment que 550 vies seront sauvées chaque année en Europe grâce à la sécurité accrue des camions lourds. Les collisions impliquant les usagers les plus vulnérables qui se déplacent notamment à pied ou à vélo sont un problème important. On ne peut plus se permettre d'attendre pour agir, indique un document du département des transports de Londres. Pour cette raison, les conducteurs doivent faire évaluer leur camion lourd et obtenir une certification confirmant que leur véhicule obtient au moins 3 étoiles de sécurité pour avoir le droit de circuler à Londres. Les conducteurs fautifs risquent une contravention de 550 livres sterling, 1 000 $ canadiens, qui passe à 825 livres sterling, 1 500 $ canadiens, si elle reste impayée après 28 jours. Le permis de circuler et les amendes en cas de délit ne font pas partie des recommandations formelles du comité d'experts québécois. Il laisse cette décision au pouvoir politique, mais la norme technique élaborée à Londres pour sécuriser les camions lourds a inspiré leurs travaux. Les piétons d'abord. Au Québec, ça fait 100 ans qu'on gère les transports en fonction des véhicules à moteur. Il est temps qu'on pense à la sécurité des usagers de la route les plus vulnérables, dit Louis Martin, conseiller en aménagement chez Piétons Québec. Il fait partie du comité chargé d'élaborer la norme québécoise de sécurité des camions lourds. Le comité doit remettre son rapport au mois de juin, après une période de consultation publique qui prendra fin le 12 mars. Louis Martin a bon espoir que la norme proposée mènera à l'adoption d'un règlement en bonne et due forme par la ministre des Transports. Il rêve que les États-Unis, qui travaillent aussi sur une norme semblable, emboîtent le pas. Magali Bebron, directrice des programmes chez Vélo Québec, fait partie du comité travaillant à la norme sur les camions lourds. Elle est agréablement surprise par la volonté de tous les membres, y compris ceux de l'industrie du camionnage, d'améliorer la sûreté des transports par camion lourd. Tout le monde est en mode solution, personne n'est dans le fatalisme, dit-elle. Elle rappelle que cette norme est destinée aux fabricants de véhicules lourds, aux gestionnaires de flotte, aux écoles de camionnage, aux opérateurs et aux autorités réglementaires. Dans un monde idéal, les camions lourds seraient munis des équipements les plus sophistiqués visant à protéger piétons et cyclistes. Mais Vélo-Québec considère néanmoins que l'étape ultime serait d'interdire les véhicules les plus dangereux en milieu urbain dense, comme les quartiers centraux de Montréal. C'était « Vers des camions lourds plus sécuritaires en ville », un texte de Marco Fortier paru le 11 mars 2025 dans Le Devoir.
Une stratégie stratégique pour le Canada de rejoindre l'Union européenne. Une chronique de Langevin paru le 17 mars 2025 dans La Source. Face aux politiques de plus en plus hostiles et isolationnistes des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, le Canada doit explorer de nouvelles voies pour assurer sa stabilité économique et sa souveraineté politique. Une de ces voies consiste à rechercher l'adhésion à l'Union européenne, UE. Bien que cela puisse sembler ambitieux, les avantages potentiels l'emportent largement sur les défis. Cette stratégie décrit les étapes que le Canada peut suivre pour présenter un argument convaincant en faveur de l'adhésion à l'UE. 1. Renforcer les liens économiques. 1.1. Élargir les accords commerciaux. S'appuyant sur le succès de l'accord économique et commercial global, AECG, le Canada devrait négocier des accords commerciaux supplémentaires avec l'UE pour libéraliser davantage le commerce et les investissements. Cela démontrera l'engagement du Canada à approfondir l'intégration économique avec l'Europe. 1.2. Diversifier les marchés d'exportation. En réduisant sa dépendance au marché américain, le Canada peut montrer sa capacité à s'adapter et à prospérer dans une économie mondialisée. L'augmentation des exportations vers les États membres de l'UE mettra en évidence les avantages mutuels de liens économiques plus étroits. 2. Aligner les cadres politiques et juridiques. 2.1. Harmoniser les réglementations. Le Canada doit œuvrer pour aligner ses normes réglementaires avec celles de l'UE. Cela inclut l'adoption de normes européennes dans des domaines tels que la protection de l'environnement, les droits des travailleurs et la sécurité des consommateurs. Un tel alignement facilitera une intégration plus fluide et démontrera que le Canada est prêt à respecter les normes de l'UE. 2.2. Renforcer les institutions démocratiques. En mettant l'accent sur des valeurs communes, telles que la démocratie, les droits humains et l'état de droit, le Canada peut se positionner comme un partenaire naturel pour l'UE. Le renforcement des institutions démocratiques et la promotion de la transparence renforceront encore l'argument en faveur de l'adhésion du Canada. 3. Construire des alliances stratégiques. 3.1. Renforcer l'engagement diplomatique. Le Canada doit intensifier ses efforts diplomatiques avec les États membres de l'UE, en favorisant des relations bilatérales solides. Des réunions régulières de haut niveau et des dialogues stratégiques aideront à instaurer la confiance et à soutenir la candidature du Canada à l'adhésion. 3.2. Collaborer sur les enjeux mondiaux. En travaillant en étroite collaboration avec l'UE sur des défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité et les droits humains, le Canada peut montrer son engagement envers des objectifs partagés. Des initiatives et partenariats conjoints souligneront les avantages de l'inclusion du Canada dans l'UE. 4. aborder les défis géographiques et juridiques. 4.1. Explorer un statut de membre associé. Compte tenu des contraintes géographiques, le Canada pourrait rechercher un statut de membre associé spécial, similaire à la relation de la Norvège avec l'UE. Cela permettrait des liens économiques et politiques plus étroits, sans intégration complète, répondant aux défis juridiques et logistiques. 4.2. Plaider pour des réformes juridiques. Le Canada peut travailler avec ses alliés de l'UE pour plaider en faveur de réformes permettant aux pays non européens de rejoindre l'UE. En mettant en évidence les avantages stratégiques de l'inclusion du Canada, tels que la stabilité économique et les valeurs partagées, le Canada peut construire un argument convaincant en faveur d'ajustements juridiques. 5. Co-entreprise stratégique pour le transport transatlantique à grande vitesse. Compte tenu du climat géopolitique actuel et de la nécessité d'un commerce transatlantique efficace, le Canada devrait envisager une co-entreprise avec l'Union européenne pour construire des navires à grande vitesse destinés au transport de marchandises à travers l'Atlantique. En s'associant avec un constructeur naval européen de premier plan tel que Fincantieri SPA d'Italie et en tirant parti de l'expertise de la plus grande compagnie maritime canadienne, Westshore Terminals Investment Corporation, cette collaboration pourrait révolutionner la logistique maritime. L'objectif serait de développer des navires dépassant les vitesses des navires porte-conteneurs actuels, tels que le Maersk Boston, qui a une vitesse de pointe de 36,5 nœuds. Cette initiative améliorerait non seulement l'efficacité du commerce, mais renforcerait également les liens économiques entre le Canada et l'UE, offrant un avantage stratégique sur le marché mondial. En somme, bien que l'idée que le Canada rejoigne l'UE puisse sembler ambitieuse, le climat géopolitique actuel nécessite des actions audacieuses et stratégiques. En renforçant les liens économiques, en alignant les cadres politiques et juridiques, en construisant des alliances stratégiques et en abordant les défis géographiques, le Canada peut présenter un argument convaincant en faveur de l'adhésion à l'UE. Cette démarche permettra non seulement de protéger la stabilité économique et la souveraineté du Canada, mais aussi de le positionner comme un acteur clé sur la scène mondiale, favorisant une alliance transatlantique plus forte. C'était une stratégie stratégique pour le Canada de rejoindre l'Union européenne, une chronique de Langevin, parue le 17 mars 2025 dans La Source.
Combattre le racisme ancré en nous-mêmes, un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 5 avril 2025 dans l'Express.ca. Désireux de partager des idées qui pourraient aider d'autres personnes à explorer la façon dont elles ont, elles aussi, été éduquées à être racistes, Denis-Élise Béchard a écrit « La blanchité aveuglante, réflexion sur le racisme ». À noter que ce livre n'est pas encore paru dans sa version originale anglaise. Il a été édité et traduit simultanément chez Éco-Société. Il s'agit donc d'un inédit. Racisme structurant. La blanchité aveuglante est une formule empruntée au philosophe Charles W. Mills dans The Racial Contract, 1997. L'essai de Denis-Élise Béchard demeure une quête introspective et profondément humaniste où l'auteur cherche à comprendre comment les idées racistes ont structuré sa pensée, ses attitudes et comment elles façonnent encore la société tout entière. Rire des autres. L'auteur précise qu'il n'est pas nécessaire de lire son livre de façon linéaire. On peut sauter des chapitres. C'est ce que j'ai fait pour me concentrer, entre autres, sur le rôle des blagues racistes et sur ce que l'auteur appelle le racisme bienveillant. Béchard explique comment il a grandi dans un environnement où on lui a appris à rire des autres cultures. Il écrit que les blagues, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, influencent nos perceptions dès le début de notre développement et peuvent avoir des implications profondes sur la valeur que nous accordons à la vie des autres. Ce noir-là. Des blagues racistes au racisme bienveillant, il n'y a qu'un pas allègrement franchi. Lorsqu'un blanc dit que ce noir-là est un bon travailleur, on entend moins ce qui est affirmé que ce qui est sous-entendu sur la vaste majorité des autres noirs. Le langage, écrit Béchard, est bien plus que des définitions dans le dictionnaire. Il est fait d'intonation, d'inflexion, de poses, de gestes et de cadences qui peuvent faire écho à quelque chose de dégoûtant, de méprisable, de dangereux. Autrement dit, une personne blanche peut proférer une insulte raciste sans même avoir à la prononcer. Deux ensembles de codes. L'auteur souligne qu'en entendant les blancs parler et en voyant leur méfiance à l'égard des noirs, il a assimilé deux ensembles de codes pour interpréter les émotions humaines, un pour les blancs et un autre pour les noirs, fondé, il va sans dire, sur les interprétations des blancs. Qu'il s'agisse de la violence du langage, du racisme bienveillant, des fantasmes de supériorité et de victimisation, de représentation et d'appropriation culturelle, Denis Élise Béchard livre un portrait sensible et sans détour de ses expériences liées au racisme envers les personnes noires et les autochtones. En finir avec l'aveuglement. Il espère qu'en remettant en question les fictions sur lesquelles repose la blanchité et en parlant franchement de la façon dont le racisme façonne nos esprits, nous pourrons en finir avec notre aveuglement et commencer à nous engager dans les solutions juridiques et matérielles nécessaires à la construction d'une société juste et équitable. Un essai puissant pour sortir de notre aveuglement collectif et combattre le racisme ancré en nous-mêmes. C'était « Combattre le racisme ancré en nous-mêmes », un texte de Paul-François Sylvestre, paru le 5 avril 2025 dans l'Express.ca.